Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Un peu plus de 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Ça se dispute avec ce samedi. Julien Drey, bonsoir Julien, merci
bonsoir.
D'être avec nous. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro, bonsoir,
bonsoir
Alexandre. On a énormément de choses à traiter ce samedi, mais avant cela, on fait le point sur l'information.
Édouard Philippe échappe à une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre dans la gestion gouvernementale du Covid. La Cour de justice de la République a placé l'ancien Premier ministre sous le statut de témoin assisté. Les magistrats ont estimé qu'il n'avait pas réuni les indices graves ou concordants nécessaires pour engager des poursuites. Le soutien aux Iraniens continue en France. Un nouveau rassemblement s'est tenu place du Trocadéro cet après-midi à Paris. En Iran, les manifestations se poursuivent plus d'un mois après la mort de Mahsa Amini, décédée 3 jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Giorgia Meloni dévoile son gouvernement. À 45 ans, elle est officiellement première ministre en Italie. Elle est la première femme à occuper cette fonction dans le pays. Elle a présenté une liste de 24 ministres, dont 6 femmes. Tous ont prêté serment ce samedi matin au palais présidentiel à Rome. Et puis l'équipe de France de football féminin connaît ses adversaires. Un an avant la Coupe du Monde 2023 organisée en Australie, le tirage au sort a eu lieu ce samedi. Les Françaises affronteront le Brésil, la Jamaïque et un barragiste en phase de poule. Un groupe difficile selon la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre.
Pour le point sur l'information à la une, messieurs, ce samedi, 8 jours après la mort terrifiante de la petite Lola, 12 ans, les hommages se multiplient dans tout le pays. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces rassemblements, vraiment, on a une dizaine, voire une quinzaine de rassemblements un peu partout en France. Certains crient à la récupération politique. À Rennes, ce samedi, par exemple, les policiers ont dû sécuriser l'un des rassemblements. Et pourquoi ? Parce que vous aviez des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite qui se faisaient face. Michaël Chailloux va nous expliquer ce qu'il s'est passé ce samedi à Rennes. Et nous, on va se poser la question, est-ce que ces hommages pour Lola, c'est de l'émotion ou de la récupération ?
Grosse présence policière cet après-midi à Rennes pour maintenir à distance 2 manifestations. La première à l'appel du parti Reconquête en mémoire de la jeune Lola. Ils étaient environ 150 manifestants réunis derrière une banderole Justice pour Lola. On notait beaucoup de personnes masquées avec des lunettes noires, notamment certaines qui étaient derrière une banderole en breton, vraisemblablement des militants d'un parti autonomiste breton d'extrême droite. Et puis de l'autre côté de la place, des militants d'extrême gauche, environ 100, et au milieu de nombreux CRS. Et grâce à cette mobilisation des forces de l'ordre, il n'y a pas eu de rencontre de ces deux camps. Aucun heurt à signaler. Au bout d'1h30, les 2 manifestations ont pris fin dans le calme.
Alexandre Devecchio, est-ce que vous trouvez que ces rassemblements, ils devraient être interdits, en sachant que la famille de Lola demande à ce qu'il n'y ait pas de récupération politique?
Oui, mais elle n'a pas interdit, enfin, elle n'a pas demandé à ce qu'il n'y ait pas de marche.
Elle a entièrement
raison. Il
pouvait
y avoir des marches, mais qu'eux étaient dans la peine et ne comptaient pas y participer. Je pense qu'on est en démocratie, on ne peut pas interdire aux gens de s'exprimer. Je pense qu'il y a une émotion qui est légitime en réalité. Quand il y a eu la mort du petit Elan, on ne s'est pas demandé s'il fallait utiliser les images, s'il fallait les instrumentaliser, si l'émotion était légitime. D'ailleurs, on peut la comprendre, on peut comprendre que des gens ont été émus. De la même manière, George Floyd, c'était pour quelque chose qui ne nous concernait pas directement, mais qui était à des milliers de kilomètres. Il y a eu une émotion et pour le coup, une vraie instrumentalisation politique, parce que je rappelle que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, voulait se mettre à genoux avec les indigénistes. Donc là, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Moi, je trouvais par exemple le rassemblement d'Éric Zemmour était une erreur politique, mais je ne lui ferai pas la morale. Et je pense que ceux qui ont une vraie responsabilité là-dedans, c'est-à-dire l'État, parce qu'en réalité, les gens manifestent aussi parce que le crime est choquant, parce qu'il y a une émotion, mais aussi parce que l'État n'a pas fait son travail et que cette jeune fille ne serait pas morte s'il n'y avait pas eu non seulement une défaillance ces trois dernières années, puisque l'assassin était en situation irrégulière, mais je dirais 40 ans de politique migratoire et sécuritaire totalement défaillante. Donc ceux qui ont échoué partout depuis 40 ans, qui n'ont pas fait leur travail ces trois dernières années, viennent expliquer aux autres qu'ils sont indécents. Je trouve qu'ils sont très très mal placés pour faire des leçons de morale.
Alors sur ce sujet, c'est pas facile évidemment, Alexandre Devecchio, mais ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à séquencer. Donc vraiment, restons sur, est-ce que c'est de l'émotion, est-ce que c'est de la récupération politique, est-ce que oui ou non, il faut autoriser ces mobilisations, Julien Drey?
D'abord, l'émotion, oui, il en faut même beaucoup, et c'est normal. C'est-à-dire, on peut pas regarder ce qui s'est passé en étant détaché ou indifférent. Cueillez à l'appel de la famille ou à l'appel des amis de la famille, des rassemblements qui sont des rassemblements traduisant cette émotion.
Bien sûr.
C'est respectable ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, ce qui se passera peut-être lundi au cours de l'enterrement. Ça, c'est respectable. Ce sont des gens qui montrent leur solidarité avec la famille et qui montrent effectivement aujourd'hui, parce que c'est important, que le pays est ému et que le pays cherche peut-être à poser aussi des questions. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, on parle après d'autres choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. La manifestation de jeudi était une manifestation politique, directement politique. Le rassemblement à Rennes était un rassemblement directement politique, avec l'extrême-gauche, ce n'est pas du
ça
tout...
Ça n'a pas été organisé par un parti jeudi, cher Julien, d'accord, vous le savez.
D'accord, oui, d'accord, mais donc, si vous êtes en train de dire ce que je viens de dire, le rassemblement de jeudi était un rassemblement politique.
Non, c'était directement. Un institut pour la justice qui l'a organisé.
Mais
non,
oui, enfin, ce n'était pas l'institut, l'institut c'était la façade
le rassemblement... Quand SOS Racisme organisait des manifestations, c'était le Parti Socialiste, alors.
Non, attendez, François Mitterrand. Ne confondez pas tout, Non, mais attendez, 30 secondes, vous avez parlé longuement, et moi je vous laisse, sur ce débat-là, j'essaye de ne pas transformer ça en polémique. Je vous dis... Jeudi, c'était un rassemblement politique. Mais d'ailleurs, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Ces rassemblements sont des échecs. Il n'y a personne, si ce n'est quelques groupuscules d'extrême droite. Ça veut bien dire que le pays ne se reconnaît pas. Non, vous pouvez hocher la tête. Il n'y avait personne dans ce rassemblement.
C'est parfois un peu dur pour des personnes qui sont politiques, qui sont venues se mobiliser et qu'on considère être d'extrême droite.
Excusez-moi, Elliot, y compris après l'émission d'hier, j'ai re-regardé, j'ai passé une heure bien à regarder toutes les images du rassemblement de jeudi. Ouais. Et si je les avais vues, d'ailleurs, j'aurais eu un ton plus sévère.
Allez-y.
Parce qu'une manifestation, on crie « migrants assassins », on crie des choses qui sont à l'égard des journalistes, d'ailleurs. On agresse, on insulte. Vos collègues, excusez-moi, vos collègues de BFM qui étaient là se sont fait agresser. Une journaliste a été... Voilà, ça, c'est pas une manifestation.
C'est fait cracher dessus.
C'est pas une
par un groupuscule, et c'était pas les 700 personnes.
Je ne vais pas parler parce que vous êtes gêné, je comprends.
Mais je suis pas gêné, Julien Drey. J'essaie juste de rééquilibrer les choses.
Non, vous n'êtes pas là pour me dire que vous rééquilibrez. Vous êtes là pour... faire le débat. Si vous estimez que je dis des choses qui sont en désaccord avec vous, vous avez le droit de me reprendre.
Mais c'est la réalité,
finir. Mais laissez-moi finir.
Allez-y.
Ou sinon, débattez avec le mur.
Non. Allez-y, Julien, mais c'est juste que j'essaie de...
Mais non, non, je veux dire, alors il faut le faire avec tout le monde. Je vous dis simplement, jeudi, il y a eu des images insupportables.
Et vous avez raison.
Rien à voir avec la mort de Lola. Après, si vous voulez qu'on débatte de l'immigration, si vous voulez qu'on débatte des OQTF, si vous voulez qu'on débatte de la responsabilité qui est évidente, responsabilité de l'État, des gouvernants dans cette affaire-là, parce que quand il y a un crime sur des choses comme ça, jeudi, je m'excuse, ce qui s'est passé, les images sont insupportables.
Et vous, non mais condamner les images de jeudi, vous avez entièrement raison, de dire que tout le rassemblement, c'était un rassemblement d'extrême droite avec des gens qui criaient...
Mais il n'y avait que ça non,
Moi, je n'ai pas vu les mêmes images. Il se trouve que j'ai vu les images sur cette antenne. Il y avait des gens, effectivement, apolitiques qui venaient partager leur émotion, leur colère.
Aussi des extrémistes.
Leur colère politique, mais ce qui est légitime parfois de partager sa colère politique. Moi, j'ai été plutôt sévère sur ce rassemblement. Pas pour faire la morale, mais parce que j'estime que c'est une erreur politique. Ça peut avoir du sens dans le combat métapolitique, mais je crois que Éric Zemmour, parce que c'est vrai qu'il était impliqué dans cette manifestation, a voulu être chef de l'État, et que je pense que ce type de pratique, le fait d'avoir acheté le nom de domaine aussi, ça l'enferme dans un ghetto électoral, et que c'est pas la meilleure manière de procéder pour rassembler. Mais il n'empêche que quand j'entends les critiques de Julien Drey, je les trouve excessives, et je trouve que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, puisque la gauche, pendant des années, il le sait très bien, a fait ce type de manif, ce type de marche blanche également pour récupérer des combats politiques. On parlait de George Floyd tout à l'heure. Donc là, il y a un deux points, deux mesures qui est insupportable, avec un amalgame entre peut-être quelques groupuscules extrémistes et ceux qui sont venus manifester. Justement. Encore une fois, pour des raisons politiques, peut-être pas avec la bonne méthode, mais je crois qu'on a aussi le droit de manifester une colère et de soulever des enjeux politiques, parce que ce crime soulève des enjeux politiques.
Excusez-moi, mais c'est incroyable. Je me demande où on est. Combien il y avait de personnes, jeudi, dans la rue ?
Pour la mobilisation, ouais, plusieurs centaines d'enfer au chrome.
Non, moins que plusieurs centaines.
Je voudrais que je dise ce que disait Gauthier Lebret qui est situé sur le terrain.
Moins de plusieurs centaines. C'est-à-dire que, excusez-moi, on parle, et vous avez vu les images de ceux qui étaient là. Vous allez à un hommage pour Lola, avec un bandeau sur les yeux, avec le blouson de cuir. Non, si je vais pour un hommage sur Lola, je vais avec une fleur, je vais avec, un signe de témoignage. Je ne vais pas pour aller à la bagarre ou pour faire semblant que c'est la bagarre. Voilà. Donc moi, je veux bien. Mais d'ailleurs, je perds mon temps, je vous le dis honnêtement. Parce que pour moi, c'est dérisoire. Le pays est ému. Le pays a besoin d'explications. Le pays a besoin d'un débat politique. Alors après, j'entends, comme un disque rayé, d'ailleurs, la chanson, mais SOS, mais Ilan Halimi, mais Black Matter, etc. Mais je suis pas dans la hiérarchie des cadavres.
Mais jamais.
Je suis pas dans la hiérarchie émotionnelle. Je dis pas les uns justifient les autres. Je suis moi, quand il se passe quelque chose, je suis ému, je manifeste. Mais je ne sais pas. Mais d'ailleurs, madame, dans le plateau précédent, on vous a donné la réponse. Pourquoi il y a toute cette agitation ? Nous avons peur qu'on n'aborde pas les questions. Alors c'est pour ça qu'on se précipite. Elle l'a dit, madame Cluzel, tout à l'heure dans le plateau. Elle a dit, mais parce que sinon vous allez enterrer les choses.
Écoutez, madame, pour être très honnête. Avançons, s'il vous plaît. Non, mais la question qui est importante.
Si cette manifestation a une utilité, moi j'étais plutôt contre, c'est effectivement qu'on ne puisse pas enterrer les choses. Et Julien Dray a raison. Parlons du fond politique des choses et arrêtons avec cette manifestation. Oui. On dirait presque que c'est Éric Zemmour qui a tué Lola.
La question que je
qui me choque moi avant tout, c'est le meurtre de Lola.
Bien
c'est
sûr,
pas les manifestations.
On va y venir.
Ben
mais
voilà.
La question que
la
je
synthèse.
Veux. Non mais la question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'on peut se rassembler, quelle que soit la mobilisation, sans instrumentaliser Est-ce qu'à chaque mobilisation, il n'y a pas une part d'extrémisme et d'extrémisme ? Et excusez-moi, mardi lors de la mobilisation syndicale, vous allez à une mobilisation syndicale, vous n'arrivez pas avec des tenues noires et vous criez pas police assassin. Ou vous en prenez pas aux journalistes
d'abord,
non plus.
D'abord, je vous signale,
signale
que sur la journée de mardi, il y a une demande officielle des syndicats pour savoir ce qui s'est passé.
Ah bah,
ils estiment que dans le déroulement de la manifestation, il y a eu des choses qui n'étaient pas normales.
Je veux juste qu'on revienne.
Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît.
Vous avez raison.
Vous avez une manifestation qui est convoquée dans la précipitation. Parce que, elle a été convoquée dans la précipitation. Et on savait dès le départ, et d'ailleurs... Excusez-moi, mais pourquoi Marine Le Pen n'a pas été cette manifestation, d'après vous ?
Pourquoi elle, elle l'a expliqué, justement, parce qu'elle a considéré qu'il y a l'instrumentalisation.
Voilà, c'est ça que vous avez la réponse à la question.
Mais attendez, je veux qu'on revienne à 2020. Pourquoi ? Parce que je dis, aujourd'hui, on condamne, et à juste titre, on condamne les actes extrémistes qui ont pu se dérouler sur certaines mobilisations. En 2020, 10 jours après la mort de George Floyd, aux États-Unis, vous avez eu de nombreuses mobilisations en France. Et très peu ont condamné l'amalgame fait entre les violences policières aux États-Unis, c'est un fait, et les violences qu'on peut avoir en France. Il y a eu cet amalgame qui a été fait. On voulait même que les policiers en France posent un genou à terre, si je ne m'abuse. Voilà ce qu'on a pu entendre pendant cette mobilisation place de la Concorde, lors d'un rassemblement qui était dit rassemblement contre le racisme. C'était le 6 juin 2020. Écoutez.
Et pour Lola, on est obligé de revenir en 2020 ?
Écoutez, justement, c'est la question
excusez-moi, je suis contre cette instrumentalisation, je vous le dis tout de suite. Je ne réponds plus à vos questions là-dessus.
Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut rassembler sans instrumentaliser, justement.
Je vous ai expliqué qu'il y avait des rassemblements qui étaient légitimes, mais pourquoi vous ressortez des images de 2020 alors qu'on part du meurtre de la petite Lola ?
Non, mais là, c'est pas sur Lola.
Mais alors, on peut ressortir des images de 1980 aussi.
Moi, la question que je veux qu'on se pose, et sans tabou, et justement,
on n'est pas en train de faire des tabous. Je vous ai répondu à la question. Je vous ai dit, il y a les rassemblements qui l'ont légitime, mais des responsables politiques qui n'ont rien à voir avec mes idées ont eux-mêmes estimé qu'il ne fallait pas descendre la rue parce qu'il y avait des débordements. La question est contenue dans ce comportement.
Est-ce qu'on peut écouter ce qui s'est passé en 2020 et de savoir si on peut se rassembler sans instrumentaliser ? C'est juste ça la question ?
Non.
Non ?
Non,
vous voulez pas
répondu. Non, je vous ai répondu.
On écoute et on aura la réponse d'Alexandre. Et ça, c'est l'autre séquence que je voulais montrer, puisque c'était Champ de Mars le même jour, mais là, place de la Concorde.
Si nous sommes là, c'est parce que devant l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert, la statue d'un raciste, la statue qui prouve que l'État français est raciste. Ça veut dire que les Noirs ne font pas partie du peuple.
Alexandre Devecchio, est-ce qu'on a parfois une indignation de l'instrumentalisation à géométrie variable?
Évidemment que c'est une indignation à géométrie variable. Vous auriez pu rajouter, il y avait des images qui avaient été prises avec mort au blanc, ce qui n'avait pas indigné une partie de la gauche à l'époque. Donc oui, c'est à géométrie variable et ça ne date pas de 2020. Julien Dray dit, est-ce qu'on peut remonter aux années 80? Profanation du cimetière de Carpentras, on fait une gigantesque manifestation contre l'extrême droite alors qu'on a découvert après que ça n'avait rien à voir.
C'est un groupuscule d'extrême droite.
Que ça n'avait rien à voir avec le FN,
vous avez raison, mais les condamnés à Carpentras étaient des militants d'extrême droite.
Mais c'était une manifestation contre le FN. Bon, bref. Donc il y a des choses à géométrie variable. Effectivement, non, n'y passons pas des heures, parce que je crois qu'on se focalise aussi là-dessus. Le gouvernement pousse des cris d'orfraie, Julien Dray pousse des cris d'orfraie, enfin les médias poussent des cris d'orfraie pour ne pas parler justement du vrai problème, parce que ça évite de parler du fait que les responsables du meurtre de Lola, c'est l'État et ceux qui ont exercé le pouvoir ces dernières années, et certainement pas Éric Zemmour.
C'est
donc moi j'ai dit, il est maladroit, il s'enferme dans un corner électoral, j'aurais pas fait comme ça, c'est une erreur politique, pas une faute morale, fois que c'est dit, passons à autre chose et parlons des enjeux politiques, parce que c'est ça l'intéressant.
Vous avez à tous les deux entièrement raison.
Les images sur la statue de Colbert, c'est-à-dire qu'on est dans les mouvements de la cancel culture, avec lequel il y a un débat politique, moi je suis en total désaccord avec ça, mais qui n'ont rien à voir avec la question du meurtre de Lola.
C'est la question qui est posée, c'est peut-on se rassembler sans instrumentaliser en revenant sur des mobilisations, cher Julien, évidemment, c'est pas le meurtre de Lola dont on parlait. En revanche, pour revenir justement sur Lola, puisqu'on a parlé de la forme et peut-être trop, parlons du fond, puisque ça fait des années que l'État ne parvient pas à faire exécuter ces fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français, à tel point que Bruno Retailleau veut désormais engager la responsabilité de l'État avec une nouvelle proposition de loi. Si, voilà ce qu'il dit, l'OQTF a été appliqué, Lola serait encore en vie. Élodie Huchard nous explique et vous allez me dire si l'État peut être responsable ou non.
L'affaire Lola fait réagir à droite, notamment Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains et candidat pour prendre la tête du parti. Il s'est exprimé via un communiqué puisqu'il veut déposer une proposition de loi inspirée par ce meurtre tragique. Il explique que selon lui, ce meurtre pose clairement la question de l'inaction de l'État et donc de sa responsabilité. Il vise aussi cette OQTF qui n'avait pas été appliquée. Si l'obligation de quitter le territoire français prononcée contre la meurtrière avait été exécutée, Lola serait encore en vie. Estime-t-il deux raisons donc pour cette proposition de loi. D'abord, il explique que les renoncements de l'État mettent en danger la vie des citoyens. Il explique aussi que ces renoncements, dit-il, affaiblissent considérablement la crédibilité de l'État, qui serait selon lui impuissant. Alors le but de cette proposition de loi, c'est bien de pouvoir engager la responsabilité de l'État lorsqu'il manque à ses obligations et que ces manquements ont des conséquences graves pour les citoyens. L'État devrait donc pouvoir désormais, selon Bruno Retailleau, être responsable pécuniairement de ses actes et donc pouvoir verser des dommages et intérêts aux familles des victimes. Dans l'entourage de Bruno Retailleau, on nous explique qu'il avait déjà eu l'idée de cette proposition de loi. C'était en août 2021 lorsque le père Olivier Maire avait été assassiné en Vendée par un clandestin rwandais qui avait fait l'objet de 3 OQTF successives non exécutées. À l'époque, il n'avait pas eu forcément le temps parlementaire nécessaire pour déposer cette proposition de loi. Elle est actuellement en cours de rédaction et devrait être déposée d'ici quelques semaines.
Est-ce que vous comprenez cette question sur la responsabilité de l'État, Julien Dray?
Le problème, c'est, une fois qu'on a dit ça, c'est quelles sont les solutions qu'on apporte. La responsabilité de l'État, elle est évidente. À partir du moment où quelqu'un devait quitter le territoire, n'a pas quitté le territoire et devient un assassin, c'est vrai qu'il y a une responsabilité, puisqu'elle n'aurait pas dû être là. Voilà. Et que si elle n'avait pas été là, la petite fille n'aurait pas rencontré cette personne-là. Bon, voilà. Donc l'affaire, elle est d'après moi claire, nette et précise. Il n'y a pas besoin de tergiverser et de jouer à cache-cache. Après, la seule question, c'est pour moi importante maintenant, c'est comment éviter qu'on recommence à pleurer et à faire de la surenchère en disant etc. Parce que vous l'avez vu, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur cette question-là, il y a un échec. Voilà. Et un échec de ce gouvernement et des gouvernements précédents. Donc ce serait trop facile de leur mettre que sur eux la responsabilité. Alors, il y a un échec, il y a des explications qui sont données, parce qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à reconduire à la frontière, qu'on sont des Afghans, parce qu'il n'y a pas d'État, ou quand ce sont des Syriens, parce qu'il n'y a personne qui... Bon, donc il faut trouver des solutions à ça. Je pense qu'il y en a deux différents, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut que l'État paye, parce que ça veut dire que l'État paye quoi ? Paye les meurtres ? C'est-à-dire... Non, je pense que la responsabilité des politiques, c'est d'agir, c'est pas de trouver de l'argent pour faire. On va consoler les parents parce qu'on va leur donner de l'argent.
Vous avez raison.
Bon, donc c'est une forme de lâcheté. Voilà. Même d'aveu d'impuissance. Parce que de toute manière, l'État, dans ce cas-là, il va donner de l'argent hein, pour avoir le silence. Non, moi je pense qu'il y en a deux qui ne sont pas débattus. Je pense que la question des quotas qui implique une reconduite à la frontière immédiate est une question qui, quand même, un jour devrait être débattue. Parce que le problème, c'est entre le moment où on prononce l'obligation de quitter le territoire et tous les recours possibles imaginables, toute une série de gens disparaissent. C'est ça qu'il faut arriver à juguler. Donc si vous avez des quotas, vous pouvez dire tout de suite, il n'y a pas les recours multiples, etc. Parce que vous avez défendu votre dispositif spécifique qui impliquera, je vous l'ai dit, une discussion avec l'Europe sévère. Mais à partir du moment où la France défend son dispositif, elle n'est plus sous la tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme de la même manière qu'aujourd'hui.
Alexandre Devecchio.
Alors, j'ai eu l'occasion de dire que moi, je n'étais pas favorable au quota, je suis favorable à une limitation drastique de l'immigration. La question n'est pas savoir comment on fait venir... Non, ce n'est pas la même chose. Parce que les quotas, ça veut dire qu'on fait des quotas de travail, on fait venir un certain nombre de personnes. Je pense que la priorité, c'est de faire partir les gens, pas de les faire venir. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je partage ce qui a été dit. Je pense que la proposition de Bruno Retailleau a surtout... pour vocation à mettre en exergue le fait qu'effectivement l'État a une responsabilité, mais on ne peut pas se contenter de ça comme réponse parce que tout l'argent du monde ne rendra pas Lola à sa famille. Donc il faut des solutions concrètes en aval et en amont. En aval, il faut déjà commencer par rétablir le délit de situation irrégulière, puisque François Hollande, traduisant une directive européenne, a supprimé le fait que c'était un délit d'être en situation irrégulière, d'où le fait qu'on se retrouve avec des OQTF, on dit aux gens, donne un ticket aux gens, on dit maintenant vous pouvez partir de vous-même. Évidemment, ils le font pas. Corrélé à ça, il faut évidemment des centres de rétention fermés beaucoup plus parce qu'il n'y en a pas assez, sinon on ne pourra pas faire appliquer la loi. Et quand les gens sont en situation irrégulière, ils doivent aller en centre de rétention jusqu'à ce qu'ils soient expulsés. Ça, c'est ce qu'il faut faire en aval, plus supprimer tous les recours juridiques possibles parce que sinon les gens restent éternellement. Et puis il faut agir en amont, un meilleur contrôle des frontières, peut-être examiner ceux qui veulent être réfugiés politiques dans leur pays d'accueil et supprimer un certain nombre de politiques sociales qui fonctionnent
Alexandre,
comme un appel d'air pour l'immigration.
Désolé, vous entendez la musique, c'est la publicité. C'est la publicité. On est obligé d'avoir cette publicité. On ira voir Marine Sabourin après la publicité qui est notre envoyée spéciale parce que les hommages vont se poursuivre demain et après-demain dans le Pas-de-Calais pour Lola. Et puis ensuite, on parlera aussi du crack à Paris. Pourquoi ? Parce que, vous savez, Julien, je pense qu'on l'avait traité ensemble un week-end, il y a 3 semaines, 1 mois, le nonagénaire qui avait été agressé à côté du parc de la Villette est malheureusement mort et c'est son fils qui l'a annoncé jeudi. On parlera des pompiers qui ont été agressé également à Tours, l'affaire IQ-SEN qui se poursuit. Et Édouard Philippe, entendu par la Cour de justice de la République. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi a-t-il été entendu ? Est-ce qu'il a été mis en examen ? On vous dit tout après la publicité. Un peu plus de 19h30 sur CNews, la suite de 16 disputes, Julien Drey, Alexandre Devecchio autour du plateau. On sera avec Marine Sabourin dans un instant, qui est notre envoyée spéciale dans le Pas-de-Calais, avec ses images qui se poursuivent autour de la petite Lola décédée il y a exactement 8 jours. On fait d'abord un point sur l'information.
La situation s'améliore dans les stations-service françaises. Selon le gouvernement, 13% d'entre elles étaient en manque de gasoil ou d'essence. Elles étaient près de 17% ce jeudi. Des difficultés d'approvisionnement liées au mouvement de grève dans les raffineries de Total Energy. 2 sites sont d'ailleurs toujours en grève, en Normandie et dans le Rhône. 4000 soignants en pédiatrie ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils dénoncent la saturation des services hospitaliers et leurs conditions de travail. Une saturation aggravée par l'épidémie de bronchiolite qui oblige le report de certains soins. Selon les soignants, cette situation est le résultat d'une inaction politique irresponsable. Et puis en Ukraine, plus d'un million de foyers sont privés d'électricité. Conséquence des frappes russes sur des infrastructures énergétiques dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d'une attaque massive avec 36 tirs de roquettes.
Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, on est en direct avec Marine Sabourin, qui est notre envoyée spéciale. Marine, vous êtes à Lillers, dans le Pas-de-Calais, 8 jours après la découverte terrible du corps de la petite Lola. Alors, il faut le dire aux téléspectateurs, Lillers, c'est à quelques kilomètres de Foucreuil, où hier, un premier hommage avait été rendu en présence des frères de Lola. Marine, j'imagine que l'émotion est toujours aussi vive aujourd'hui, cette fois à Lillers.
Oui, en effet, nous sommes à Lillers, c'est la commune d'origine de la mère de Lola et donc évidemment énormément d'émotions. Nous avons échangé avec les habitants. Pour certains, ils ne savent pas encore s'ils vont se rendre aux obsèques de Lola lundi à 14h30 par pudeur. Et d'autres sont sûrs d'y aller pour soutenir les parents de la petite fillette de 12 ans. Nous avons pu recueillir leurs témoignages au micro d'Olivier Gangloff. Pardon, je vous propose de les écouter.
Oui, parce qu'on se dit que ça peut arriver aux nôtres. Donc oui, en soutien, j'irai à l'enterrement de Lola.
C'est triste. J'espère que la justice va faire quelque chose pour celle qu'elle a fait ça. Parce que c'est terrible. Si c'est vrai. Je m'excuse, mais ça me fait mal au cœur.
Oh, ben, de la barbarie. Hein. Ça a été la barbarie.
Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui est arrivé.
C'est ignoble ce qui s'est passé, ça ne devrait pas arriver.
Beaucoup d'émotions, vous l'avez entendu. Donc les obsèques de Lola se dérouleront lundi à 14h30 dans la collégiale Saint-Omer qui se trouve juste derrière nous. Il y aura un proche de la famille accompagné de policiers qui filtrera les entrées pour que les proches de Lola soient les premiers à rentrer dans cette collégiale. Et puis demain à Foucreuil, la commune d'origine du père de Lola, il y aura à l'église une messe avec une prière d'intention prononcée pour Lola.
Merci Marine Sabourin, merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Repassons au débat, messieurs, avec cette séquence que vous avez peut-être vue dans l'émission Face à Baba chez nos confrères de C8, puisque Gérald Darmanin était l'invité, le ministre de l'Intérieur, de Cyril Hanouna. On en avait parlé, si je ne m'abuse, il y a 3 semaines, Julien, sur ce plateau. Vous savez, un nonagénaire de 92 ans avait été roué de coups en septembre dernier, non loin de la colline du Crac, en tous les cas de la porte de la Villette dans le 19e arrondissement par une toxicomane. Jeudi, son fils a annoncé son décès des suites de ses blessures dans l'émission donc Face à Baba. Regardez cet échange.
Mon père est décédé mardi.
Comment ça ? Votre père est décédé, Jean ?
Oui, oui. En effet, il est décédé des suites de ses blessures et il n'a pas absorbé le choc. Que s'est-il passé lorsque vous avez installé l'antre du diable, Square Forceval? Que s'est-il passé pour que vous nous laissiez pendant un an dans la peur face au crime?
Le grand problème, ce n'est pas tellement un problème de police que de sanitaire. Il faut soigner ces gens pour une partie de ceux qui peuvent être soignés. Et puis, ces terrains, personne n'a voulu de ces personnes. Et donc, dans l'endroit le moins, je sais que pour vous, ça ne va pas vous plaire, évidemment, cette phrase, mais le moins gênant, on a mis à Forceval ces personnes en disant à la ville de Paris, en disant à la région Île-de-France, en disant à l'agence régionale de santé, en disant aux médecins, il faut que vous preniez des décisions pour mettre ces personnes en dehors de la voie publique, pour les soigner. Et puis, ça n'est pas venu.
Monsieur Darmanin, c'est un acteur principal dans ce meurtre, mais il n'est pas coupable. Mais il aurait dû agir bien avant.
Julien Drey, une réaction peut-être sur cette séquence et on parlait de l'inaction de l'État sur peut-être les obligations de quitter le territoire français sur la colline du Crac.
Vous allez pouvoir dire à vos téléspectateurs qu'il y a un mois, je vous ai dit qu'il fallait en parler.
Oui.
J'ai demandé à ce qu'on en fasse un sujet.
Oui.
Vous voyez que je n'étais pas passé à côté ou que je n'ai pas cherché à cacher les choses. Je pense que ces camps ont été l'objet d'un conflit politique où chacun a essayé de se refiler la patate entre la mairie de Paris, l'État, la région, etc. Et que ce n'est pas vrai, contrairement à ce que dit le ministre, ce n'est pas qu'un problème sanitaire. C'est aussi un problème de police, puisque dès qu'on laisse se faire ces regroupements, il y a effectivement ceux qui consomment du crack, mais il y a aussi toute le monde interlope, comme on dit, il se retrouve là. Et donc le fait de laisser ces camps se former est une grave erreur.
Et j'ai commencé en disant qu'on en avait parlé ensemble il y a un mois.
Je
trouve que la réponse de Darmanin...
Qui est coupée. Hein.
Oui, attention, non, mais
parce que, en plus, alors... il a eu le courage de venir à débattre et parler de ça. Et...
Vous, c'est parce qu'à la pause, vous avez vu hors antenne que j'étais...
Choqué.
Voilà, choqué par l'absence d'émotion. Effectivement, la séquence était coupée, mais je ne voulais pas réagir sur son absence d'émotion, simplement sur sa réponse en tant que gouvernant, parce que c'est là-dessus qu'on l'attend. Et il dit c'est un problème de santé, pas un problème de sécurité. Certes, moi, je ne suis pas en train de dire que les toxicomanes n'ont pas de problème de santé, que ce n'est pas une addiction, mais ça reste un délit de consommer du crack. Et je pense que la sécurité des personnes est prioritaire sur le soin et que on doit donc ces personnes les mettre à l'abri de la société et qu'il faudra des centres fermés bon gré mal gré et que ce sera en plus une politique humaine et de santé publique parce que les obliger à se soigner ce serait préserver la société mais ce serait aussi leur donner une chance à eux de s'en sortir. Donc là il faut faire sans doute évoluer la législation. Apparemment on peut pas forcer les gens à soigner, je comprends pas pourquoi puisqu'on a forcé des milliers.
On peut les forcer, il y a des injonctions thérapeutiques.
Bah en tout cas elles sont pas prononcées dans ce cas-là. Donc c'est une vraie question et je n'entends jamais aucun politique en parler. Je crois qu'Anne Hidalgo est plutôt contre et on pourrait imaginer que Gérald Darmanin y soit favorable. Il ne le dit pas. Donc moi je pense qu'il faut le dire. Il faut une injonction thérapeutique. On a enfermé, je le rappelle, quand même des millions de Français au moment du Covid. Donc là je vois pas pourquoi on s'embarrasserait du droit. S'il faut modifier le droit, on le modifie. Mais je pense que c'est la seule solution. Et donc dire faut les soigner en passant par des associations, mais en les laissant en liberté. Non, il faut les priver de liberté jusqu'à ce qu'ils soient soignés. Et ceux qui sont en situation irrégulière, encore une fois, il faut les expulser.
À toi. Oui, enfin, comparaison.
N'est jamais raison. Je veux
dire, on n'a pas enfermé les Français pendant le Covid. On les a.
Une image.
Voilà. Donc, faites attention parce que.
Non, mais quand l'État veut.
Donc, c'est pas la même nature. Là, le problème qui est posé, c'est toujours la même chose. C'est que vous avez des malades. Mais des toxicomanes malades. Et vous n'avez pas assez de place pour pouvoir les accueillir. Enfin, c'est ce qui est expliqué, en fait, quand on regarde dans la réalité. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il ne faudrait ouvrir que quelques dizaines de places pour pouvoir répondre à ça. Mais après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils installent un petit groupe et derrière, il y a toute une masse qui se regroupe, qui d'ailleurs n'est pas consommateur de crack, mais qui va être ou dealer ou...
Une économie.
Voilà. Il y a toute une économie. Et ce qui est, d'après moi, la faute de tous les ministres de l'Intérieur et des différentes autorités, c'est de laisser les choses se développer. Et plus elles se développent, chaque jour qui passe, le camp grandit. Donc, par exemple, sur le périphérique, il n'y a pas de brigade qui tourne en permanence. Et vous avez... Ça commence toujours comme ça. Vous allez voir, sur le périphérique, vous en avez 3, 4, 5, et puis hop, ça grandit. S'il y avait des brigades, puisqu'il y a une police municipale maintenant, une police nationale qui tournerait sur le périphérique et qui tout de suite intervenait, vous n'auriez pas ce type de regroupement qui, par ailleurs, après, quand ils sont importants, évidemment, sont difficiles à disperser parce qu'il faut mobiliser beaucoup de policiers, qu'il y a des questions juridiques qui sont posées, etc. Donc c'est en amont que ces questions-là doivent être traitées. Par ailleurs, il y a la possibilité, quand on fait des contrôles d'identité et qu'on constate que les personnes sont en situation, je dirais, de fragilité, il y a la possibilité de présenter des injonctions thérapeutiques et même un enfermement.
Sécurité toujours, et vous allez découvrir des images extrêmement choquantes à Tours, devant le lycée de Balzac, en marge d'une manifestation, des pompiers interviennent pour prêter secours à un jeune. Ils sont pris à partie par des délinquants, frappés, mis à terre. 4 sapeurs-pompiers ont été blessés, 3 personnes interpellées. Gérald Darmanin qui a réagi hier, vous découvrirez un peu plus tard le tweet, mais d'abord, on va revoir les images avec Kinson.
Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que 6 pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, 4 d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce 3 interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndical dénonce des agressions insupportables.
Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé et ils ont été pris à partie eux aussi par ces individus cagoulés. Et donc sur l'équipage, 4 de nos collègues ont été légèrement blessés certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé au sol et qui a reçu des coups de pied alors qu'il était atterré.
Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac, où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours, un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre, alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine, en soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre, ou encore à Châtenay-Malabry, où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle, située à proximité d'une conduite de gaz qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps.
Nous sommes inquiets quant à ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en fonction aussi des décisions politiques et gouvernementales qui pourraient intervenir.
Un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés.
En fait, Alexandre Devecchio, il n'y a plus aucune limite. Vous en venez, vous êtes mineur, délinquant, et vous tabassez des pompiers.
Oui.
Ça dit quoi de notre société ?
D'abord, ça dit que ces manifestations ne sont pas du tout des manifestations classiques pour améliorer la situation scolaire. Ce sont des manifestations à la fois mêlant, je dirais, la politique et la délinquance ordinaire. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Le tabassage des pompiers, on sent bien que c'est les racailles qui se mêlent à tout ça et qui frappent les pompiers. Ce qui montre, ce qui nous disent les violences policières, c'est parce que les policiers font trop de contrôles, ils sont contre les jeunes, etc. On voit bien que c'est pas ça du tout, c'est que c'est l'État est dans le viseur d'une certaine partie de la population qui a la haine de l'État, la haine de la France et qui s'attaque à tous ceux qui représentent ces institutions-là. Ensuite, je disais que c'était des manifestations politiques, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a certains syndicats, notamment Sud, qui sont dans des causes qui sont plus du tout des causes, encore une fois, des revendications légitimes. Il y en a quelques-unes, parce qu'ils parlent par exemple de Parcoursup. Moi, je suis effectivement Parcoursup, on peut discuter du fait si c'est un bon système ou pas, mais on voit bien qu'il y a d'autres revendications comme la liberté vestimentaire, donc des revendications communautaristes dans certains
comme
sites,
à Clermont-Ferrand.
De la possibilité de changer de genre comme on veut, la facilité à changer de genre. Donc on voit bien que c'est instrumentalisé par des syndicats qui sont extrêmement militants et qui, à mon avis, ont plus du tout à cœur l'émancipation des élèves, de permettre aux élèves, en particulier de conditions modestes, de sortir de leur situation, d'apprendre et de progresser, mais qui sont là aussi dans une forme de guérilla contre l'État, qui est, quoi qu'il arrive, accusé d'être raciste, islamophobe et sexiste maintenant.
Julien.
Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger.
Bah si, tout se mélange là-dedans.
Oui, d'accord, mais après on ne comprend plus rien. Donc moi je veux bien tout mélanger, j'essaye de comprendre les événements et y apporter. Vous avez deux choses, vous avez d'abord un ensauvagement général de la société avec une montée de la violence qui concerne tous les aspects de la vie, premièrement. Deuxièmement, vous avez un trafic de stupéfiants qui s'est installé non plus simplement au cœur des cités mais sur tout le pays, dans les grandes comme dans les petites villes. Et vous avez des noyaux durs qui sont totalement aujourd'hui au cœur de ce trafic et qui profitent, instrumentalisent tous ces conflits, parce que derrière, dans ces violences qu'il y a dans un certain nombre d'établissements, c'est des points de deal qui sont en cause. Et alors, ils instrumentalisent un certain nombre de contestations, ils viennent et ils transforment ça, parce qu'eux, ils sont dans une négociation territoriale pour défendre leurs points de deal. Ce qui pose la question de la lutte contre ce trafic de stupéfiants et contre tout cette population qui, maintenant, se croit tout permis. Voilà. Donc ça, je dis, il ne faut pas tout confondre parce qu'il y a des réponses qui sont différentes. Voilà. Je maintiens que, d'ailleurs, vous avez eu un reportage formidable qui a été fait par un quotidien sur la ville de Nantes et qui explique comment cette ville, qui était une ville tranquille,
a basculé dans
une guerre de bande et a surpris même les autorités politiques, policières. Et ce qui est intéressant, parce que ça renvoie à un conflit qui est actuel, c'est que la réponse qui est donnée par justement ceux qui sont sur le terrain, c'est de dire il faut renforcer la police judiciaire. Parce que dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, il ne suffit pas de mettre des bleus, c'est-à-dire des uniformes.
Oui.
Il faut casser les filières. Ce qui renvoie à la réforme de la police judiciaire aujourd'hui qui est en cause.
Allez-y.
Je ne sais pas si c'est moi qui mélange tout. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs violences qui se mélangent. Alors il y a peut-être aussi le trafic de drogue, mais ce n'est pas une raison pour ne pas parler de l'instrumentalisation de la jeunesse par des syndicats qui veulent mettre le feu.
Pas les syndicats là qui.
C'est les syndicats qui revendiquent la liberté de s'habiller comme on veut, qui organisent des grèves. C'est parti quand même d'un mouvement soi-disant social. Moi, j'appelle pas ça un mouvement social, mais c'est parti de là, Julien Drey. Et ensuite, là où vous avez raison, mais là où tout se mélange encore, c'est qu'à mon avis, il y a un point commun entre toutes ces violences auxquelles on assiste en France, c'est effectivement une forme d'ensauvagement de la société. On voit que on n'arrive plus à avoir de principes communs. Il n'y a plus de communs dans la société française, et il y a un affaiblissement de l'autorité et de l'autorité de l'État qui est soumis partout au chantage des minorités agissantes, de minorités politisées, violentes, qui ont pour point commun de vouloir mettre à bas l'État et le bien commun dans ce pays. Donc voilà, c'est pas tout mélangé, c'est analyser les causes profondes.
C'est intéressant parce que vous voulez tout de suite renvoyer ça à une minorité politique qui essaye de mettre à bas la société, et vous ne voulez pas aborder ce qui est pourtant la réalité, c'est-à-dire la montée en puissance de ce trafic de stupéfiants qui génère, pour une part, toutes ces violences. Dans un certain nombre d'établissements scolaires aujourd'hui, quand il y a des manifestations, on voit arriver ce que vous appelez la racaille, c'est-à-dire les dealers, etc., et qui d'ailleurs terrorisent les lycéens eux-mêmes, les font rentrer parce qu'ils veulent pas qu'il y ait d'agitation pour avoir la maîtrise du territoire, ou au contraire, les font dégénérer. Donc, je m'excuse de le dire, les abayas, sur les tenues vestimentaires, c'est un autre débat, qui donne lieu à des mobilisations très, très limité d'ailleurs, parce que c'est pas les lycéens qui descendent dans la rue pour revendiquer ça. C'est des minorités agissantes. Les notes des renseignements territoriaux sont assez précises là-dessus. Je suis pas en train de justifier ça. Je pense au contraire.
Non, j'entends ce que vous dites.
Faut plus de sévérité, même. Moi,
j'essayais de trouver ce que disait Laurent Wauquiez, parce que ça s'est passé mercredi à Clermont-Ferrand, et lui, il parlait effectivement d'un petit groupe. Un petit groupe d'individus qui a partiellement bloqué l'accès au lycée pendant une heure, etc.
Je ne dis pas les trafics, je dis que tout ça se lie.
Et c'est multifactoriel.
Des fois, l'un va avec l'autre, ceux qui mènent le débat sur le.
Bon. Et le point commun, c'est l'affaiblissement de l'État. C'est le dysfonctionnement de l'État qui n'arrive plus à maintenir
le comment c'est pour ça que je m'excuse de revenir là-dessus. Moi, je veux bien qu'on constate les dysfonctionnements de l'État, etc. La question qui est posée, c'est comment on fait pour éviter cela. On ne peut pas simplement dire il faut de l'autorité. Si vous ne cassez pas, voilà, c'est ça la démonstration.
Il faut casser les ghettos
aussi. Ce trafic de stupéfiants. Donc, casser les ghettos, vous avez raison.
Parce que c'est souvent des lycées situés dans des zones homogènes, ethniquement, culturellement. Merci. Et c'est le résultat d'une politique très, très longue qui va être très, très dure à défaire.
Maintenant, je suis d'accord avec vous, mais je ne veux pas revendiquer, mais casser les ghettos, je crois que la signature, vous la connaissez. Donc, merci de le dire.
Ça dépend de la méthode.
Bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'excuse de vous le dire. Si, et je le redis, je n'arrêterai pas de le dire. Parce que si vous n'abordez pas la question du trafic de stupéfiants, vous pourrez faire tout ce que vous voulez en termes d'autorité, vu que ces gens-là, ils n'ont plus rien à faire. Parce que c'est une contre-société pour qui la vie n'a pas de valeur. Regardez ce qui se passe à Marseille. C'est des gamins de 17 ans qui descendent avec des calaches. Vous n'arriverez pas à vous en sortir. Et donc, il y a deux choses. Il y a un débat sur où on concentre la bataille contre le trafic des stupéfiants, quelle drogue aujourd'hui il faut interdire violemment, comment travailler. Et puis, j'insiste parce qu'on n'en parle pas beaucoup. La question de la réforme de la police judiciaire est très importante. Très important.
Vous avez raison.
Mais très important. Parce que question de la police judiciaire, c'est la question de faire tomber les réseaux.
Dans exactement quelques minutes, il y a Mathieu Bock-Côté qui prend le relais pour Face à Bock-Côté. Restez avec nous, bien évidemment. Je vous remercie. Ça se dispute. C'est la clé. Ça se dispute parfois, mais ça se respecte. C'est ça la priorité. On n'a pas fait Iqsen, on n'a pas fait Liran, on n'a pas fait Édouard Philippe.
Liran, on peut juste dire un mot.
Allez-y.
C'est qu'il ne faut pas oublier ce qui est en train de se
passer. Et on va en parler demain encore.
Ces femmes sont formidables.
Oui.
Et qu'elles continuent à se mobiliser.
Et ce que je vous propose, cher Julien, c'est que demain, on en fasse un petit bout. Chaque week-end, tant que ce n'est pas réglé, on en fera un petit bout ensemble.
On est d'accord sur les rangs, on est d'accord.
Vous êtes souvent d'accord. La vérité, c'est que vous êtes souvent d'accord. Merci à tous. Mathieu Bock-Côté, dans un instant sur CNews.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.